Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Philosopher avec Star Wars. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver en direct pour ce nouveau numéro de La Valeur de l'Homme où nous allons essayer de philosopher avec Star Wars. Le monde créé par le cinéaste George Lucas en 1977 est en effet devenu le symbole d'une diffusion mondiale de la culture populaire. 7 films, le 8e sort bientôt, 7 films dans la saga principale, un film autonome, des téléfilms, des dessins animés, des comics, des jeux vidéo et des milliers de produits dérivés, sans parler de tous les noms de personnages ou les dialogues qui sont devenus proverbiaux. L'univers de Star Wars est bien en expansion. Toute cette richesse mérite qu'on s'y arrête et qu'on la prenne au sérieux. De nombreux ouvrages ont d'ailleurs été publiés autour de la guerre des étoiles. Car le succès jamais démenti de la franchise tient à ses qualités propres et à sa capacité à fournir des personnages et des situations qui stimulent la pensée. Ce qui a trait à la célèbre force qui guide les Jedi, par exemple, a ainsi tout d'une philosophie orientale complexe. Les troubles émotionnels d'Anakin Skywalker témoignent des ambiguïtés du mal. Tous les longs-métrages se confrontent à des problèmes complexes, celui de l'opposition entre démocratie et empire, celui de la place de la technique ou encore celui de la diversité, et y apportent des réponses utiles pour saisir notre monde contemporain. C'est d'ailleurs le propre de la pop culture que d'œuvrer massivement à la diffusion d'idées sans emprunter les formes closes de la haute culture. Et on peut tout à fait philosopher à partir de Star Wars en convoquant les plus grands auteurs. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire aujourd'hui en compagnie de Gilles Verviche. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Gilles Verviche, vous êtes professeur agrégé de philosophie, auteur de plusieurs ouvrages sur le langage et sur les liens justement entre culture populaire et philosophie. Vous animez depuis plusieurs années un blog qui s'appelle « Quelques grammes de philo
oui. ».
Pourquoi laïquer et autres questions philosophiques voilà. de la vie quotidienne ? C'est une vraie question. Vous êtes ancien chroniqueur radio-télé, donc votre dernier ouvrage s'intitule « Star Wars ». La philo contre-attaque. Il a été publié aux éditions Le Passeur en 2015. Alors, ce qui m'a frappé en lisant votre livre sur Star Wars, au fond, c'est toutes les passerelles que vous établissez entre, on va dire, la sagesse extrême orientale et les thématiques de Star Wars. Alors, par exemple, la force fait penser au tout cosmique du bouddhisme. Est-ce qu'on peut dire que Star Wars, c'est un film sous influence spirituelle de l'Asie et du Japon en particulier, Gilles Verviche?
Oui, bah c'est ce qui m'est apparu pendant mes recherches. Moi, tout au départ, je voulais faire un livre de pop philosophie un peu classique, donc parler de Descartes, Anna Arendt ou qui on veut, de Sartre, parce que j'avais un peu tout de suite vu les ponts qui pouvaient exister. Puis en recherchant, en grattant un peu dans les making-of et en lisant des phrases de George Lucas, je me suis rendu compte qu'effectivement, fallait plus aller chercher du côté oriental. Alors ça apparaît surtout à partir du deuxième épisode. Chronologiquement, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque, donc l'épisode 5, parce que je crois que le réalisateur Erwin Kirchner lui-même était assez sensible au zen. Hein. Je crois que dans La Guerre des Étoiles, c'est pas encore très visible, mais bon, comme je le rappelle dans le livre, le terme même de Jedi est d'origine japonaise. Hein. En fait, il vient d'un mot japonais, Jedi Geki, qui veut dire œuvre
ancienne
Non, ça veut dire film d'époque. Voilà, œuvre d'époque.
Fait.
Hein, et puis c'est les œuvres d'époque, donc c'est les films de samouraï de Akira Kurosawa. Voilà. Donc d'emblée, on a quand même affaire à quelque chose d'assez oriental. Les noms, hein, Amidala, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, ouais, voilà, donc c'est chinois, japonais ou indien. Je crois que Padawan, c'est du sanskrit, ça veut dire étudiant ou quelque chose comme ça.
En l'occurrence, ce sont les jeunes étudiants qui s'apprêtent à devenir Jedi.
Bon, ça, je l'ai appris en lisant, je ne savais pas au départ. Et donc, effectivement, voilà, et puis d'emblée, effectivement, cette notion de force, voilà, cette notion de force paraît un peu orientale. Parce qu'on n'a pas affaire à un dieu personnifié. J'avais lu depuis quelques papiers qui essayaient d'expliquer en quoi Star Wars trimbalait une culture judéo-chrétienne et en particulier protestante. J'avais lu un papier qui montrait en quoi c'était... Voilà, bon. Alors évidemment, je pense que George Lucas a fait exprès. Je crois que j'avais lu une phrase où il dit que tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est-à-dire que la notion de force, tout le monde s'y retrouve, mais ça n'empêche que c'est pas un dieu personnifié comme dans cette culture-là. On a plus à on pense pense plus au Tao, les choses comme ça, enfin voilà, pour ce que j'ai pu en lire.
Une espèce de force cosmique ou quelque chose qui environne, mais qui ne s'incarne pas dans une divinité.
Voilà, voilà, avec un rapport de l'homme avec la nature, voilà, donc c'est vraiment, c'est plutôt une philosophie orientale, et puis les fameux maîtres Jedi, Yoda, dont on va peut-être reparler tout à l'heure, et puis Obi-Wan Kenobi, bon, effectivement, le type même d'enseignement est plutôt oriental. Voilà, c'est-à-dire entre un maître et un disciple, par petite phrase sibylline, je crois que c'est comme ça que les maîtres zen enseignent à leurs disciples, par des phrases un peu énigmatiques. Hein. C'est un nom d'ailleurs, j'ai un trou maintenant, mais j'avais le nom de ces petites phrases, et puis ce disciple, après, de comprendre un peu ce que le maître voulait dire. Bah, ceux qui ont un certain âge se souviennent sans doute de la série Kung Fu, hein, Maître Po, qui avait pareil, des genres de phrases un peu cryptique, et ouais. C'était aussi aux disciples de l'interpréter. Voilà. Donc, oui, vraiment, je pense que si on passe à côté de la philosophie orientale, que moi je connaissais très peu, enfin, j'ai vraiment découvert et recherché tout ça en écrivant le livre, bon, on passe à côté, à mon avis, de l'essentiel. Quoi.
C'est un film aussi sous influence, alors vous l'avez dit, d'Akira Kurosawa, grand réalisateur japonais. Il y a deux films qui apparemment auraient inspiré, voilà. Enfin, ils s'en réclament explicitement.
Oui, oui, hein, oui La forteresse cachée et Les Sept Samouraïs aussi. Alors d'abord, tout ce que je vous dis là, je peux le raconter, je le raconte plus ou moins dans le livre, mais je crois que pour faire Obi-Wan Kenobi, tout au début, il voulait prendre Toshiro Mifune, l'acteur fétiche. Yoda s'inspire du chef des sept samouraïs. Effectivement, alors la forteresse cachée que je connaissais pas moi avant, enfin je l'avais jamais vue. Alors je l'ai vue donc pour faire ce livre. Ça dure bien 2h30-3h en noir et blanc. C'est un peu aride, c'est un peu lent. Mais ce qui est assez étonnant, c'est la première scène du film qui est la même que la première scène de la Guerre des Étoiles. Quand on voit les deux robots dans le désert, sauf que là c'est pas deux robots, c'est deux paysans japonais qui s'enfuient parce qu'on est en pleine guerre féodale et on voit tout de suite l'inspiration. Et en fait, le premier scénario brouillon de la Guerre des Étoiles, le premier qui était sorti, reprenait les personnages de la forteresse cachée, avec un vieux général, une jeune princesse, enfin, c'est ces personnages-là qu'on trouve dans ce film-là. Et puis on voit qu'au fur et à mesure de ces drafts là, de ces scénarios, il est arrivé à une histoire plus personnelle, mais la première version du scénario, c'est vraiment les personnages de la forteresse cachée.
Voilà. Donc revoir Kurosawa. Vous avez mentionné Sartre, Gilles Verviche, et il se trouve qu'effectivement vous posez dans votre livre l'idée que Star Wars illustre à merveille l'idée sartrienne que l'existence précède l'essence, au sens où les personnages au fond ont toujours le choix. Vous donnez l'exemple, on va rester dans l'Empire contre-attaque, d'un personnage qui s'appelle Lando Calrissian, qui d'abord se voue à l'Empire. Alors, il est peut-être un peu menacé, on ne sait pas très bien, et puis il rejoint la rébellion. Donc au fond, est-ce qu'on peut dire que la saga magnifie l'idée que on peut choisir son destin, rien n'est joué?
Bah oui, parce que j'étais parti de l'idée que la notion de destin était très très présente dans la saga. Hein. Bon, la phrase la plus connue du film, je suis ton père, c'est ton destin, enfin voilà, tout le monde la connaît sans doute cette phrase. Bah, ceux qui ne le savaient pas, dommage pour eux, mais je leur apprends que le méchant, c'est le père du héros. Donc
on le sait.
On a spoilé, mais si vous n'avez pas vu le film depuis 1977, ouais. C'est un peu de votre faute, je crois que de toute façon, vous ne le verrez jamais. Et il y a beaucoup de destin, et même dans la prélogie, donc épisode 1, 2, 3, on va encore plus loin parce qu'on parle même de prophétie et puis de voir le futur, donc on a l'impression que c'est effectivement une saga qui au départ dans laquelle les personnages sont enfermés dans un destin, et en fait alors j'avais lu un texte de Lucas dans un making-of qui se prononce sur cette question de destin et liberté, voilà, alors il dit une phrase un peu absurde, je la cite dans le livre, il dit je crois dans le destin et en même temps dans l'existentialisme. Voilà, alors normalement ça va pas ensemble.
Là
puisque...
aussi, c'est comme pour voilà, tout à l'heure, entre religion
alors,
et
spiritualité. Voilà, alors il essaye de lier les deux. On a affaire à des héros, que ce soit Luke Skywalker ou Anakin, son père, qui devient Dark Vador, qui au départ ont un destin, au sens où ce sont des héros. Mais effectivement, on essaye de montrer qu'on a toujours le choix et c'est apprendre à prendre ses responsabilités. D'ailleurs, Lucas raconte que c'est le grand sujet de tous ses films, même American Graffiti, même THX, c'est comment se libérer d'un destin quel qu'il soit. Dans THX, un monde de robots, de machines, où on est tous des numéros. Dans American Graffiti, des adolescents qui passent à l'âge adulte. Et là, c'est exactement la même chose. Alors oui, Lando Calrissian, il est intéressant. Alors, c'est ce que, comme je le dis, c'est ce que Sartre appelle un salaud. Voilà. Alors ça, assez bien, je le dis souvent à mes élèves, vous pouvez le jour du bac écrire salaud sur votre feuille
en mettant des guillemets,
en disant que c'est Sartre et en définissant le concept, et puis ça passe très bien si vous voulez vous amuser un peu. Parce qu'on pourrait croire au départ que le héros est le salaud. Le héros, c'est celui qui a une nature héroïque et qui a des vertus et qui ne peut agir que bien. Et le salaud, c'est quelqu'un qui est méchant par nature, hein, un peu comme Jabba the Hutt, hein, qui transpire, voilà, qui est inspiré du parrain de Scorsese.
La version batracienne.
Version batracienne, voilà. Et Sartre dit, si on est un héros par nature, on n'est pas un héros parce qu'on fait rien d'héroïque puisque c'est dans ma nature. Et pareil, si on est un salaud, c'est pas de ma faute puisque c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Alors pour lui, au contraire, le héros, c'est celui qui est conscient de sa liberté, conscient que tout ce qu'il fait c'est lié à ses choix et qu'il doit assumer les conséquences. Et le salaud, on est tous salauds des fois dans notre vie. Enfin voilà, le salaud, c'est pas des personnes différentes. Hein. On a tous ces comportements-là. Ça nous arrive souvent de quand on veut pas faire quelque chose, de dire j'avais pas le choix, j'étais obligé, j'étais forcé. Alors comme je le rappelle, c'est la défense des criminels nazis,
oui,
pendant leur procès.
J'ai obéi aux ordres.
Voilà, j'ai obéi aux ordres.
Vous mentionnez le procès d'Eichmann couvert par
voilà,
Anna Arendt.
Exactement, voilà. Et le salaud, donc, c'est celui qui simplement n'assume pas sa liberté. Il y a une phrase comme ça, quand Han Solo est emprisonné, il dit à Lando, qui au départ était son ami, c'était avant de le trahir, c'était son meilleur ami, soi-disant. Et puis, il lui dit, j'avais pas le choix, à peu près. Il dit, on a tous nos problèmes, voilà. Et l'autre lui dit, t'es un vrai héros. Alors, on comprend tout de suite, t'es un vrai salaud. Alors, j'aimais bien que ces termes fassent un peu écho dans la scène. Et voilà, et effectivement. C'est la liberté est un peu affirmée dans la saga, finalement.
Gilles Verviche, tout au long de votre ouvrage, vous explorez la complexité du mal, ou en tout cas l'action des méchants. Est-ce qu'on peut dire qu'une des formes de méchanceté des gens de l'Empire, ou en tout cas des gradés, des officiers de l'Empire, c'est qu'ils ne ressentent aucun conflit interne. Ils sont pas clivés, ils sont sûrs de leur bon droit à dominer.
Alors, je sais pas s'ils sont. Enfin, ça dépend à quel échelon de la hiérarchie on parle. Voilà. Je pense que il y a les généraux, il y a Dark Vador. Bon, alors là, c'est un personnage hyper complexe, donc qui est finalement le héros de la saga.
Oui,
hein. Si on prend les six, c'est lui le héros.
Oui, la prélogie
en fait, hein.
Voit la naissance de Dark Vador.
C'est marrant, ça recadre complètement. Voilà. Donc en fait, c'était lui le héros. Voilà. Donc c'est pas vraiment un méchant, c'est le héros de la saga. Mais après, il y a les généraux qui effectivement sont certains de leur bon droit. D'ailleurs, ça rappelle, si on connaît, une phrase de Platon, hein, qui sort assez souvent. On ne fait le mal que par ignorance. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, tout le monde a le sentiment de faire le bien. Voilà. Alors bon, pour prendre un fameux argument ad Hitlerium, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui point Godwin. Bon, hein, dès qu'on veut parler du mal, on parle d'Hitler et des nazis, mais c'est vrai que c'est assez commode. Moi, je dis, par exemple, à mes élèves que les nazis, les pires criminels de l'histoire, ils pensaient faire le bien. Enfin, ils pensaient qu'on leur dirait merci plus tard.
Hein. Oui,
enfin,
qu'ils construisaient un monde nouveau, un Reich
meilleur. Enfin, voilà, ils faisaient pas le mal en disant ce qu'ils faisaient, c'était mal. Enfin, c'était au moins bien pour eux. Ils pensaient même que c'était bien pour l'humanité. Voilà. Donc, c'est vrai que de toute façon, même quand on est un méchant, on pense faire quelque chose de bien. Sinon, on ne le ferait pas. Alors, aujourd'hui, on peut penser aux terroristes. Hein. Enfin, je veux dire, aux fameux kamikazes. Ils pensent évidemment être dans leur bon droit quand ils agissent comme ils le font. Ils pensent que ce sont les autres les méchants. Voilà.
Oui.
Et je pense que la pire des choses, c'est de croire qu'on a le monopole du bien et que les autres ont le monopole du mal. Je pense que c'est là qu'on se dit que la fin justifie les moyens et qu'on est prêt à faire n'importe quoi. Ça n'empêche que quand on descend dans la hiérarchie, je pense que le problème des soldats de l'Empire, par exemple les Stormtroopers, et puis même les ceux qui appuient sur les boutons là, hein, finalement
pour envoyer les rayons,
pour envoyer
rayon
les rayons
noir,
avec leur casque, voilà, le problème c'est que ils pensent pas beaucoup, quoi, en fait. C'est-à-dire ils ont une obéissance, je crois, à Narent, une obéissance de cadavre, Kant, une obéissance d'automate. C'est-à-dire que, alors que a priori ils sont doués de penser, ils en usent pas pour agir, et leur problème c'est qu'ils agissent comme des robots, quoi. Ils sont déshumanisés dans ce sens-là, donc c'est pas tellement qu'ils pensent faire le bien, bien, c'est qu'ils pensent pas en fait du tout, et c'est un peu ça que on peut leur reprocher. Quoi.
Ouais, le vrai danger est là. Il y a une idée assez forte dans l'ouvrage, au fond, sur le, pour rester sur le mal dans l'Empire, Gilles Verviche, c'est que vous indiquez que cet Empire incarne une absence de diversité, et sa méchanceté ou sa malignité tient au fond dans son absence de pluralisme. C'est une espèce de bloc monolithique, cet Empire, par rapport aux Jedi, par exemple.
Oui, c'est très très visuel, ça. Voilà. En fait, d'ailleurs, quand j'ai fait le livre m'a été inspiré par une conférence que j'avais faite à l'occasion de TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre
de prises de parole, de manifestations.
Voilà. Et on m'avait demandé d'intervenir sur la diversité. Et j'avais eu l'idée, comme j'étais fan de Star Wars déjà depuis que j'avais 10 ans, de partir des clones, justement, à contrario, hein, pour défendre la diversité. Parce qu'a priori, il me semblait que la diversité était un problème quand même. Hein. Je veux dire, effectivement, on peut toujours dire le vivre ensemble, soyons heureux tous ensemble, il faut se tolérer, mais ce dont on se rend compte, c'est que ça pose un problème à tout le monde. Enfin, au départ, il y a un problème, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dès quelqu'un a pas la même couleur de peau que nous, qui parle une langue différente, ça nous pose un problème. C'est Babel, hein. C'est, voilà. Dieu a décidé de éparpiller les hommes et de leur donner des langages différents pour qu'ils ne s'entendent plus, et on peut dire que ça a bien marché, hein. Voilà. Hein. Donc, au départ, la diversité, c'est un problème. Et donc, je m'étais dit comment essayer de lui redonner un peu de brillant à cette diversité. Et en prenant l'image inverse des clones, voilà. Alors soit les clones, soit les Stormtroopers, qui eux sont pas des clones, ce sont des humains qui ont un uniforme, mais ils ont tous le même. Alors en plus, d'un point de vue symbolique, c'est pas mal, puisque ce sont des hommes blancs, donc bon, même si on sait pas qui il y a derrière, mais a priori, donc pas de noirs, pas d'arabes, pas de femmes, et effectivement pour tout le monde c'est monstrueux, c'est-à-dire quand on voit ces armées, bon évidemment par exemple il y a une image à la fin de l'attaque des clones où ils viennent de fabriquer l'armée de clones, donc on les voit tous, alors on croira effectivement à un défilé nazi ou nord-coréen, c'est plus d'actualité,
ouais, hein, ça, pour les jeunes générations,
comme quoi on est encore dedans, et puis qu'est-ce qu'on voit, bah, on voit qu'on se retrouve avec ces fameuses machines, c'est-à-dire aucun de ces personnages n'a d'identité, ne peut répondre à la question qui suis-je. Donc déjà, d'un point de vue individuel, c'est assez mortel. Et puis effectivement, en face, on a au contraire des rebelles qui sont dans la diversité. Le chapitre que j'ai consacré à la diversité... Je commence par une monographie sur Chewbacca, qui est quand même un des héros de la saga et qui est un monstre. A priori, c'est plutôt un monstre. Hein. Il parle même pas comme nous.
Il parle pas notre langue.
Voilà, il parle même pas notre langue, hein, avec un cri qui est composé de différents animaux. Et puis on a des femmes, on a des Ewoks. Enfin, c'est un peu voilà.
Plein de races extraterrestres, notamment qui sont amenées. Et puis chez les Jedi aussi.
Voilà. Il y a le fameux général dans le Retour du Jedi là qui dit c'est un piège. Je sais plus comment c'est. J'ai un petit trou là, mais bon.
Non, mais c'est la race des calamari, quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, général.
Général Akbar.
Akbar, voilà, exactement. Voilà. Et bon, il est très très laid. Et pourtant, il est gentil. Voilà. Donc, comme quoi, faut pas suivre aux apparences, hein. Comme disait Yoda, lui-même, Yoda, qui est bon, il est pas tout à fait sexy pour tout le monde. Donc voilà, c'est une sorte d'ode un peu à la diversité en face d'un empire monolithique. Ouais. Effectivement.
Effectivement. On va écouter Maître Yoda qui forme l'apprenti Padawan Jedi Luke Skywalker dans l'Empire Contre-Attaque qui est sorti en 1980.
Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elles se répandent facilement, prontes à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais, il dominera ton destin et te consumera, comme il l'a fait de l'apprenti d'Obi-Wan.
Vador. Le côté obscur est le plus fort?
Non. 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 Plus rapide, plus facile, plus séduisant.
Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais?
Tu le sauras. Quand tu seras calme, en paix. Passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque.
Oh, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer.
Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis?
Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent.
Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer.
Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
Fais-le ou ne le fais pas, La valeur de l'homme, philosophée avec Star Wars. Nous sommes en compagnie de Gilles Verviche. Alors ce Yoda, c'est l'incarnation du philosophe, là, celui qui maîtrise à la fois la force, la sagesse, qui arrive à contrôler ses passions.
Oui, on se demande s'il y en a. En entendant la séquence, on se dit qu'on pourrait faire une dissertation sur chaque phrase. Hein. Voilà, c'est vrai. Fais-le ou ne le fais pas, c'est quand même très très connu. Ça rappelle quand même le slogan d'une fameuse marque de sport, Just Do It.
Voilà. Faut le faire.
Voilà. Je crois savoir que c'est le seul personnage de toute la saga qui meurt de mort naturelle. D'ailleurs.
Intéressant. Voilà. À vérifier, mais c'est
à
bien
vérifier,
possible,
mais je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, c'est le maître de tous les maîtres. On a l'impression que c'est le maître Jedi qui a formé tous les autres. En fait, on ne sait pas bien. J'ai pas le souvenir de savoir par qui il a été formé lui-même. Alors, comme il a 900 ans, hein, comme il dit, comme 900 ans, comment tu auras moins en forme, tu seras. Et effectivement, oui. Alors, est-ce qu'il maîtrise ses passions? On se demande même si lui il en a. Enfin voilà, il est tellement sage que voilà, ça demande un. On voit que Luke est en conflit. Effectivement, c'est un peu le message de cette formation de Jedi. Alors pour le coup, qu'on retrouve quand même dans la philosophie occidentale stoïcienne. Alors dans le livre, je fais la comparaison. Il y a sans doute des différences, mais disons que ce que les stoïciens appellent l'indifférence, dans la philosophie zen, pour autant que je la connaisse, on parle de détachement, voilà, être sans émotion, effectivement. Alors pour les stoïciens, il ne faut ni désirer les choses, ni les craindre. Et pour le maître zen, il faut être sans émotion, voilà, parce que les hommes, ce qui rend malheureux les hommes, c'est qu'ils ont tendance d'abord à désirer ce qu'ils ne sont pas certains d'avoir. Alors ça peut être l'amour, l'argent, le pouvoir, la gloire, parce que le problème c'est que ce sont toujours des choses qui ne dépendent pas de nous, ça dépend des autres ou des circonstances, et qu'il redoute ce qui est à peu près sûr d'arriver, en particulier la mort. Voilà, alors il y a aussi beaucoup de répliques de Yoda sur la mort, notamment il a, dans l'épisode 3, il a une séance de discussion
avec Anakin,
voilà, qui lui dit « apprends à laisser partir ce que tu aimes, la mort est une part naturelle de la vie ». Et voilà, pour le zen c'est exactement la même chose. Donc être sans émotion. Alors c'est une philosophie quand même très particulière. Enfin je veux dire, on est quand même dans un ordre quasiment monastique quand même, où on enseigne l'absence de passion, qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent, alors je ne sais pas, dans la garde de nuit dans Game of Thrones.
Et oui, c'est des gens qui se vouent à une cause.
Voilà, qui au nom du devoir renoncent aux sentiments. C'est très kantien aussi, de Kant. Voilà, pour Kant, la seule chose qui est bien, c'est d'agir par devoir, et il faut pas que ce soit par sentiment. Par exemple, la bienveillance. Hein, Kant dit quelqu'un qui est bienveillant, c'est-à-dire qui a un naturel généreux, altruiste, il dit c'est très très bien. Enfin, il dit vraiment, si tout le monde était comme ça, ça serait, l'humanité s'en porterait mieux. Mais c'est pas quelqu'un qui agit librement, parce qu'il agit quand même sous le coup de l'émotion. Voilà. Et puis le problème, quand on agit sous le coup de l'émotion, que ce soit l'amour même des autres, c'est qu'on peut faire aussi des choses un peu horribles. Donc pour Kant, le vrai devoir, c'est de faire quelque chose pour lequel j'ai aucun penchant. Quoi. Voilà. Alors, c'est un peu aride quand même, parce que notamment à un moment, on voit la reine Amidala qui tombe d'un vaisseau, et puis Anakin veut aller la sauver. D'ailleurs, on voit bien qu'Anakin, s'il devient Dark Vador, c'est parce que c'est par amour, parce qu'il avait peur de la perdre, etc.
Il a peur qu'elle meure.
Il a peur qu'elle meure, voilà. Il est triste parce que sa mère est morte. Hein, c'est la peur mène à la colère à la haine à la souffrance, nanana, tout ça. Et bon, si on compare avec une autre œuvre de pop culture qui a un peu marché pas mal, 240 millions d'exemplaires vendus, Harry Potter, la philosophie est tout à fait contraire, parce que si vous, ceux qui connaissent Harry Potter, au contraire, ce qui sauve tout le monde, c'est l'amour. Voilà. Donc là, il faut comprendre que finalement, c'est pas toujours. Alors, il y a l'idée qu'il faut pas avoir peur de la mort dans Harry Potter, pareil, mais en revanche, c'est vraiment une. On voit qu'il y a une philosophie un peu pour enfants, et puis une autre qui est un peu plus pour adolescents. Laissant adulte quand même, hein. Voilà, dans Harry Potter, tous les personnages, voilà, c'est ceux qui sont sans amour, c'est les méchants, et ceux qui ont de l'amour de leurs parents, de leurs amis, nanana. Là, pas du tout, hein, on est plutôt dans une philosophie ascétique, du devoir,
du sacrifice de soi,
voilà. Bon, après, tous les héros se sacrifient, mais sans doute pas avec des sentiments. Mais c'est vrai que Yoda, c'est tellement dans sa nature que on se demande s'il y a un conflit. Vous parliez de conflit tout à l'heure, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de conflits. Enfin, il a atteint la sagesse.
Il a tout réglé.
Il a atteint une sagesse telle que, voilà, il n'y a pas un sourcil qui bouge. Hein. Enfin, il y a pas.
Ça va pas plaire aux marionnettistes.
Les autres sont en tension. Les autres sont un peu en tension. Même Obi-Wan, quand il est jeune, on voit un peu.
Il arnaque un personnage. Ça c'est Qui-Gon Jinn. Mais Obi-Wan était traversé.
Voilà. Il obéit pas toujours. Voilà. À un moment, il dit même à Anakin, tu es un Jedi bien plus fort et plus sage que je serai jamais. Alors, il y a un peu tort quand même. Mais voilà. Alors Yoda, bon, c'est la sagesse incarnée.
Gilles Verbiche, vers la fin de votre ouvrage, vous écrivez à propos de Star Wars, je vous cite, « Ce mythe de la pop culture offre à l'Occident déboussolé des repères spirituels et religieux qu'il avait perdus. » Ça a une fonction aussi importante, Star Wars. Moi, je suis prêt à vous suivre. Hein, mais... En tout cas, ça, c'est une série, une saga propositionnelle.
C'est le sentiment que j'avais quand même. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je dis. Enfin, pas des lecteurs. Enfin, je n'ai pas eu tellement de retours, mais même... avec des copains, parce que quand on défend un peu l'irrationnel par rapport à la rationalité scientifique et technique, bon, c'est vrai que voilà, l'irrationnel et l'esprit religieux fait pas toujours des choses bonnes. Hein. Je parlais des kamikazes tout à l'heure et des terroristes, enfin, ça se discuterait. Hein. C'est pas une religion qui se radicalise, c'est des radicaux qui se religieusisent. Enfin, le verbe
religiosifie.
Voilà, c'est plus un prétexte qu'autre chose, enfin, évidemment. Mais effectivement, il y a l'idée, si vous voulez, que notre société occidentale s'est sécularisée, c'est-à-dire que avec le progrès scientifique et technique, on a le sentiment d'être de plus avoir besoin de tout connaître par la science et donc de plus avoir besoin de religion en général ou de spiritualité. Et puis c'est chez Jung que j'ai lu, voilà, donc qui s'oppose à Freud. Pour Freud a écrit un livre qui s'appelle L'avenir d'une illusion, sur la religion, et pour lui l'illusion c'est la religion et l'avenir elle doit pas en avoir. Voilà, donc Freud c'est typiquement une attitude scientiste, même si finalement sa psychanalyse c'est pas du tout une science, mais qui dit que avec les progrès de l'humanité, avec l'humanité qui atteint l'âge de raison, normalement la religion on devrait s'en débarrasser. Voilà, maintenant hein, c'est la science. Et puis Jung, donc, qui était son disciple, son ami, ils se sont assez séparés, parce que finalement, quand on lit un peu les deux, le seul point commun, c'est qu'ils posent l'hypothèse de l'inconscient, mais après, ils ne mettent pas du tout la même chose dedans. Voilà, hein. Et pour Jung, effectivement, si on refoule un peu, l'homme occidental refoule tout ce qu'il y a de spirituel et de religieux, c'est parce que la société lui offre plus le moyen de le vivre socialement, à l'extérieur, etc. Et donc, effectivement... La question que je m'étais posée, évidemment, c'est de savoir pourquoi Star Wars avait une telle popularité. Et bon, bah, je suis pas psychanalyste, hein. Moi, je fais un peu de la philosophie, mais en lisant Jung, ça, mais voilà, je me suis dit que c'est peut-être qu'effectivement, quand on va voir ça, ça réenchante un peu le monde, qui est peut-être, ça c'est Max Weber, un sociologue, qui dit que la science et la technique, sans spiritualité ni la religion, c'est le désenchantement du monde. Voilà. Et donc, finalement, en dehors du fait que Star Wars, c'est rigolo à regarder et divertissant, un peu la magie, enfin voilà.
Alors il y a effectivement un côté anti-cartésien être séduisant, qui est le feeling, enfin l'intuition.
Exactement. Voilà, dans cette fameuse philosophie orientale, sur le chapitre que je fais sur la philosophie de Jedi, je parle de Descartes, mais en creux, en fait, en négatif de en disant que c'est exactement le contraire de Descartes, c'est-à-dire c'est pas je pense donc je suis, puisqu'il dit faut pas penser, faut pas réfléchir. Faut se méfier de l'anti-rationalisme, et voilà, parce que ça peut après,
ça amène aussi
ça amène un peu toutes les croyances, et puis un peu n'importe quoi, les grandes soirées du paranormal sur la TNT, un peu tout et n'importe quoi. Mais maintenant c'est vrai que il y a pas à poser que nous humains nous soyons seulement faits de raison, et que la raison serait la seule faculté qui compte, quoi. On a aussi une autre part, et puis je pense que c'est ce qui fait plaisir aux gens dans Star Wars, c'est de retrouver, de développer, c'est une sorte de catharsis, voilà, ça permet de se défouler de ce besoin d'irrationnel ou de spiritualité, je pense.
La fiction et Star Wars réenchantent notre monde. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Verbiche, de votre présence. L'émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée, car il y a un deuxième sous-titre, qui a été publié chez Le Passeur Éditeur en 2015. Merci à Boris à la technique. Cette émission sera en podcast très bientôt sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt. Thank you.